Working Class Heroic Fantasy, chapitre 9. La fabrique Adabra. Précédemment. Milia capturée, le reste de la compagnie est encore une fois en fuite sur les toits de la ville. Ils croisent une patrouille et se réfugient dans un bar miteux. Là, ils sont reconnus et pris à partie par un groupuscule d'extrême droite. Le front des inertes fiers, FIF. Ils ne doivent leur salut qu'au barman Orc qui leur permet de s'échapper par la porte arrière.
Oh non, mais vous vous foutez de moi !
L'exclamation avait échappé à Barn lorsqu'il avait aperçu au coin de la rue un bâtiment marqué du sceau Adabra et compagnie. Après avoir quitté le bar, la compagnie avait couru, puis marché plusieurs minutes dans une direction que Barn pensait aléatoire. De toute évidence, on l'avait encore dupé. Il était fort improbable, en toute logique, qu'ils fussent tombés par hasard sur l'emplacement supposé de l'épée des cerfs. Carmalière, qui comme les autres avait retrouvé son apparence normale, haussa un sourcil en notant le regard assassin que lui lançait Barn. « Avant de subir ta colère, mon cher Barn, je dois t'informer que je n'y suis pour rien. »«
Non, confirma Amélise, c'est moi qui menais la marche, et c'est moi qui nous ai amenés ici. »«
Mais pourquoi ? » s'écria Barn. Bon sang, pourquoi ?
Si les orques savent que nous avons récupéré le rapport de la bibliothèque sur l'épée, ils savent que nous risquons de venir ici. C'est suicidaire.
Le rapport ne parlait jamais de la fabrique. Ce sont nos recherches qui nous ont amenés ici. Ce n'est pas parce qu'une oligarchie est au pouvoir qu'elle communique à tous les niveaux.
Vous cherchez vraiment les ennuis. Ça ne vous suffit pas d'avoir déjà perdu Milia ?
Cette fois, Amélise perdit ses nerfs pour de bon.
Alors, écoute-moi bien, mon petit père. Ne t'avise pas d'utiliser le sort de mon ami comme argument contre moi. Milia a été capturée en essayant de faire avancer notre cause. Tu crois qu'elle a abandonné ses idéaux dans la foulée ? Tu crois qu'elle ne connaissait pas les risques ? Tu crois que nous ne connaissons pas tous les risques ? Si elle était avec nous, elle ne voudrait certainement pas que nous quittions la capitale sans avoir au moins tenté quelque chose. C'est notre dernière chance.
Oui, mais elle n'est pas avec nous. Pratique pour parler à sa place, non ?
Pod, qui sentait qu'Amélie se retenait d'agresser physiquement Barn, s'interposa.
Arrête, Barn, tu sais bien qu'Amélie a raison. J'étais proche de Milia, moi aussi.
Barn leva les yeux au ciel. Tu t'es juste envoyé en l'air avec elle toute la semaine. Ce n'est pas comme si tu étais devenu son porte-parole.
N'empêche que je suis d'accord avec Amélie,
fit le gnome un peu vexé.
Milia aurait voulu qu'on continue. En tout cas, elle n'aurait certainement pas voulu qu'on se prenne le bec comme ça.
Oui, confirma Carmalière. Je vous en prie, essayons de rester unis au moins le temps de notre périple. Lorsque nous en aurons terminé, libre à vous de vous entretuer. Mais pour l'heure, nous avons des ennemis communs bien trop puissants pour que ces petites querelles nous divisent.
C'est votre périple, pas le mien. Qu'est-ce qui me retient exactement de partir maintenant ? Vous connaissez les risques ? Très bien. Et si moi je ne les accepte pas ?
Tu es libre, bien sûr, fit Carmalière d'une voix sans expression.
Barn plongea son regard dans celui de la magicienne pour tenter d'y déceler le vrai du faux. Avec la précipitation des événements de ces dernières heures, ils n'avaient pu conclure leur partie de poker, et Barn n'avait pas tellement eu le temps d'y repenser.
« Vraiment, dit-il, vous n'avez pas répondu à ma question tout à l'heure. Pourquoi est-ce que vous tenez tant à ce que je me joigne à vous ?
Nous n'avons pas le temps pour ça, nous en reparlerons plus tard. »
« Non, nous allons en parler maintenant. C'est terminé, les entourloupes, Carmalière. Vous avez besoin de moi ? Très bien, mais ne vous attendez pas à ce que je vous suive sans avoir une pleine connaissance de tout ce que cela implique. »
« Personne, pas même moi, ne peut savoir tout ce que cela implique. »
« Ne jouez pas sur les mots. Ou vous me dites ce que vous me cachez à mon sujet, ou je pars. »
L'ultimatum que Barn ne s'était encore jamais autorisé à formuler aussi clairement était lancé. Il n'avait aucune idée de ce qu'il ferait s'il quittait la compagnie, mais il était arrivé à la limite de ce qu'il pouvait accepter. Carmalière soupira.
« D'accord, très bien. Si je tiens tellement à ce que tu viennes avec nous, c'est pour ma propre sécurité, pour mon salut, oserais-je dire. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais tu es l'une des rares personnes capables de me tenir tête. Il y a aussi Zarfolk, bien sûr, mais il ne cédera jamais à mes propositions. Et il faut quelqu'un pour me tenir tête. Et il le faudra à plus forte raison lorsque nous toucherons à notre but et que nous approcherons de l'épée des cerfs. Zarfolk avait raison. Je serais tenté de m'en servir comme moyen d'oppression sans même m'en rendre compte. Amélise, ne le prends pas mal, mais tu as une bien trop haute estime de moi pour avoir le cran de m'en alerter. Pod, tu es jeune et plein d'énergie. C'est une bonne chose, mais tu n'auras pas la sagesse nécessaire pour me contredire. À supposer d'abord que tu t'estimes légitime à le faire. Et c'est loin d'être acquis. Yel se tourna vers Barn pour finir. Barn, même si je ne pense pas mériter la basse opinion que tu as de moi, même si je suis souvent agacé par tes réflexions désobligeantes à mon écart, les faits sont là. Je ne t'impressionne pas. Je ne représente pas de figure d'autorité à tes yeux. Tu n'as pas d'ardeur particulière pour les causes qui m'animent. Tu n'hésiteras pas à engager un conflit net et sans concession avec moi si, par malheur, je m'égare dans ma quête. Tu seras mon rempart contre la tentation de despotisme, lorsque nous retrouvons l'épée. J'aurais préféré que tu fasses cela inconsciemment, sans que je ne t'informe que c'était le rôle que j'attendais de toi. Car alors, tu aurais été parfaitement objectif dans tes critiques, non biaisé par le fait de savoir que c'est exactement ce que j'attends de toi. En dernier recours. Yel semblait hésiter à prononcer la fin de sa phrase. Si quelque chose tourne mal, ce sera à toi de garder l'épée.
Quoi ?
S'écria Barn.
Mais je n'en veux pas.
Précisément. Les dernières personnes à qui il faut donner le pouvoir, ce sont celles qui le désirent.
Mais pourquoi moi? Enfin, ce que vous avez dit a du sens, mais je ne suis sans doute pas la seule personne qui puisse vous empêcher d'aller trop loin.
Non, bien sûr, il y en a sans doute des milliers. L'avantage avec toi, c'est que je commence à te connaître. Je sais que tu es une personne droite, qui ne nous trahira pas à la première occasion. Je sais que sans partager complètement mes idéaux, tu as dans une certaine mesure un peu de sympathie pour eux. Je sais que tu as toutes les qualités que je recherche chez mes compagnons de route, même si tu n'en as pas toujours conscience. Et puis, tu as la meilleure qualité de toutes. Tu es là. Pardonne-moi l'expression, mais c'est l'occasion qui fait le larron.
Vous étiez parti dans une flatterie qui puait l'hypocrisie, mais au moins, sur cette dernière partie, je sais que vous étiez honnête.
Si tu aimes lorsque je suis désobligeante, alors sache que j'aurais préféré avoir Zarfolk avec moi plutôt que toi. Seulement, comme tu l'as vu lors de notre partie de poker, lui ne me suivra jamais, c'est une certitude. Maintenant que tu as toutes les informations en main, es-tu d'accord ?
Amélise et Pod étaient restés silencieux et suivaient avec intérêt la conversation entre leurs deux compagnons. La colère de Barn s'était atténuée. Ses oppositions à Carmalière n'étaient donc pas interprétées comme le fruit d'une attitude bornée de non-initié, mais au contraire comme une saine balance. Quelque part, cela le réconfortait.
« Nous sommes encore loin d'avoir l'épée, » fit-il. « Si nous y arrivons, je refuse d'en assumer la garde. Néanmoins, je veux bien rester avec vous pour vous taper sur les doigts. Un rôle où j'excelle, n'est-ce pas ?»
Carmalière eut un sourire radieux.
« Merci, Barn, vraiment. Maintenant... »
Maintenant, conclut Amélise, il ne nous reste plus qu'à mettre la main sur cette épée.
Ils se tournèrent vers le bâtiment qui leur faisait de l'ombre. L'après-midi se terminait et le soir tardif de l'été tombait doucement. Les lettres Adabra et compagnie brillaient sur la façade du bâtiment.
Ça ne marchera jamais, soupira Barn. Chut, le conducteur va nous entendre.
Même si par miracle il ne nous entend pas, ça marchera jamais. Pensa Barn. Afin de pénétrer dans les locaux de la fabrique Adabra sans être vus, ils avaient eu la riche idée de s'introduire à l'arrière d'un camion de livraison, lorsque celui-ci s'était arrêté à un feu rouge, à quelques rues de là.
Ça fait partie des choses qu'on avait repérées avec Mia ce matin, avait expliqué Amélise. Il y a en moyenne un camion qui entre et qui sort toutes les heures. Ils sont faciles à reconnaître, avec le logo Adabra dessus. Le bâtiment, si on a bien compris, abrite à la fois un laboratoire, une chaîne de production et un entrepôt, si bien que des marchandises en entrent et en sortent régulièrement.
Carmalière avait sans difficulté déverrouillé les portes arrière du camion sans que le conducteur ne s'en aperçoive. Barn, Pod, Amélise et Yel s'étaient ensuite cachés sous des couvertures posées contre d'épaisses caisses de bois.
« N'empêche, j'espère que le camion va bien à l'entrepôt, » murmura Barn, aussi faiblement que possible. « S'il nous amène à l'autre bout de la ville, on aura l'air malin. »«
Arrête la parano !» fit Amélise. « Il va à la fabrique, c'est certain. On y sera dans quelques secondes. »«
Et... Pod, qu'est-ce que tu fous avec ça » s'exclama-t-elle soudain.
Le jeune gnome avait fouillé dans une petite caisse posée au sol à côté de lui, et en avait extrait un court bâton doré,
avec une sorte de talisman accroché au bout.
« C'est quoi ? » demanda-t-il.
« C'est un bâton de sort. Vu que nous n'avons aucune idée de la nature de ses pouvoirs, je te conseille de ne surtout pas t'en servir. »«
D'accord, d'accord. »
Pod accrocha malgré tout le bâton à sa ceinture. Barn, en temps normal, aurait désapprouvé un larcin aussi gratuit. Mais puisqu'ils étaient en route pour dérober un objet d'une valeur inestimable, il se dit qu'il n'était plus à cela près. Le camion fit un petit saut, comme s'il venait de franchir un trottoir, puis s'immobilisa. Le moteur tournait toujours. La porte arrière du camion fit un bruit indiquant que quelqu'un était allé l'ouvrir. Les quatre compagnons rabattirent les couvertures sur leurs têtes qui dépassaient. Amélie fit un ample geste des bras et une pluie de fines particules d'or leur tomba dessus. Barn se rendit compte que les couvertures ressemblaient soudain à s'y méprendre au sol du camion. La porte s'ouvrit et deux voix retentirent.
« Juste des retours clients et des occasions à reconditionner, » fit la première.
« Je vais jeter un coup d'œil, » répondit la seconde, celle d'un gobelin.
Le sol du camion s'inclina en grinçant. Le gobelin y avait grimpé.
« Vraiment, » dit son interlocuteur, « ça fait 8 ans que je bosse ici et on n'a jamais fait autant de simagrées pour des livraisons. »«
La direction nous envoie pour des raisons de sécurité, » soupira le gobelin sur un ton blasé. « Le niveau de surveillance du site a été renforcé, alors on doit vérifier tout ce qui y entre et tout ce qui en sort. Décision de la direction. Ça ne m'amuse pas plus que vous. »«
Je m'en doute. Enfin, allez-y, faites votre boulot. »
À travers les fibres de la couverture, Barn vit passer le faisceau d'une lampe torche. Il croisait les doigts pour que l'enchantement de dissimulation d'Amélise soit efficace. Après quelques secondes, la lumière s'éteignit et le camion rebondit. Signe que le gobelin en était descendu.
« Ok, ça m'a l'air en ordre, » dit-il. « Pensez à... »
La compagnie n'entendit pas la fin de la phrase, car les portes du camion se refermèrent à cet instant. Quelques secondes plus tard, le véhicule se remit en route et après quelques mètres supplémentaires, s'arrêta pour de bon. Lorsque les portes arrière s'ouvrirent à nouveau, les compagnons étaient prêts. Ils sentirent à nouveau le sol s'affaisser. Carmalière surgit hors de sa cachette et envoya les deux mains vers l'avant dans un geste vif. Un souffle puissant s'en échappa et projeta le conducteur du camion vers l'arrière. Il tomba sur le sol, inconscient.
« Hé, qu'est-ce qui... »
Quelqu'un d'autre était présent hors du camion. Amélie sauta à son tour et quitta le camion en volant, comme un boulet de canon. Il y eut un bref bruit de lutte, puis le silence. Pod et Barn se débarrassèrent des couvertures et sautèrent du camion. Ils étaient dans le parking souterrain de la fabrique. Plusieurs remorques de camions étaient alignées contre le mur. Des piliers de béton faisaient la jonction entre le sol en bitume et le plafond. Le conducteur du camion était un elfe entre deux âges. Du moins avait-il le visage d'un humain d'une 50aine d'années, avec des oreilles en pointe, ce qui signifiait qu'il était sans doute âgé de plus d'un siècle et demi. La seconde personne, assommée par Amélise, était un elfe un peu plus jeune. À l'exception de ses deux employés, inconscients et de la compagnie, le sous-sol était vide.
« Tu parles d'une entrée fracassante !» murmura Pod.
« Vous auriez pu y aller mollo, » confirma Barn.
« Ces deux elfes sont juste de pauvres gens qui font leur boulot. Vous auriez pu les tuer. »«
Bien sûr que non, » trancha Carmalière. « Nous connaissons notre magie. »«
Cachons-les dans le camion, » dit Amélise. On va un peu enfoncer le clou avec un sort de sommeil histoire d'être sûr qu'il ne donne pas l'alarme avant que nous soyons sortis d'ici. » Ils transportèrent donc les deux corps fins et légers, comme la plupart des elfes, à l'endroit où eux-mêmes s'étaient cachés, leur enlevèrent leurs uniformes et les recouvrirent de couvertures. Amélise et Carmalière s'occupèrent de leur sort de sommeil et ils refermèrent les portes du camion.
« Ça te va ?»
demanda Amélise à Barn, qui essayait d'enfiler l'uniforme de l'elfe-homme.
C'est serré, hein. Je n'ai pas franchement une morphologie d'elfe, au cas où tu n'aurais pas remarqué. »
L'uniforme de la femme serrait aussi légèrement Amélise, qui était elle aussi plus potelée qu'une elfe.
« Vous avez l'air de deux employés lambda, » dit Carmalière avec enthousiasme. « Il n'y a plus qu'à espérer que l'équipe de manutention ait suffisamment de personnel pour que personne ne s'étonne de ne jamais vous avoir vu auparavant. »«
Et vous deux ?» fit Barn. « Comment comptez-vous vous déguiser ?»«
Pour une fois, mon look de magicien devrait être adapté.
je ressemble typiquement à un cadre de ce genre de boîte. Personne ne viendra chercher d'époux un excentrique magénieur ici, j'imagine. Quant à notre ami Pod... Yel le regarda d'un air gêné. Barn sentait venir la suite. « Eh bien, je suis désolé, mon cher Pod, mais il va falloir qu'on te mette dans une boîte. » Barn se passa la main sur la nuque et détourna le regard. S'il y avait une limite au politiquement correct, Carmalière venait de la faire exploser. Non seulement les réflexions sur les tailles des petits êtres comme les gnomes et les nains étaient rarement bien accueillies, mais pour couronner le tout, Carmalière suggérait un plan d'action qui reposait sur une franche humiliation pour Pod. Celui-ci dévisagea un instant la magicienne, mais sembla prendre sur lui, comme si cette humiliation était contrebalancée par la nécessité de la cause et l'abnégation à laquelle il était prêt pour elle.
« À la guerre comme à la guerre » ronchonna-t-il.
Ils choisirent donc une caisse en bois au hasard, la vidèrent de son contenu, et Pod s'y installa. Même s'il était bien plus petit qu'un humain, il dut tout de même se contorsionner pour que la boîte ferme correctement. Amélis et Barn la saisirent ensuite chacun par un côté, et ils s'engagèrent dans la cage d'escalier qui menait au rez-de-chaussée, Carmalière sur leurs talons. Ils pénétrèrent dans une très grande salle débordante d'activité. De longs tapis roulants reliaient des machines biscornues les unes aux autres, autour desquelles s'affairaient de nombreux travailleurs. L'escalier ne montait pas plus haut. Ils n'avaient pas le choix, il fallait qu'ils traversent la salle. En prenant le même air flegmatique que les employés qui travaillaient là, ils avancèrent, Carmalière se tenant à bonne distance pour ne pas donner l'impression qu'il accompagnait Barn et Amélise. Cela aurait été étrange puisqu'il était censé être un cadre et eux des ouvriers.
« Il y a beaucoup de petits êtres !» remarqua Barn à voix basse.
La majorité des employés de cet étage de production étaient effectivement des nains et des gnomes. Les rares têtes qui dépassaient ne portaient pas de bleu de travail et occupaient manifestement des postes qui n'impliquaient pas d'interaction avec les machines.
« Oui, répondit Amélise, ça n'a rien d'étonnant. Nul besoin de maîtriser la magie pour travailler à la chaîne sur une ligne de production. Il y a l'inertie technique qui joue aussi. » Une fois que tu commences à adapter l'équipement aux caractéristiques physiques de tes employés, ça devient compliqué d'engager d'autres personnes dont les caractéristiques physiques diffèrent. Tu t'imagines bosser accroupi toute la journée ?
Barn trouva la justification bien vue. Il se demandait à quel point cela créait une certaine forme de déterminisme social. Était-ce les ouvriers de petite taille qui appelaient à l'utilisation de machines basses ou... Était-ce au contraire parce que les machines basses étaient répandues que beaucoup de nains et de gnomes se retrouvaient ouvriers et non cadres ?
Mince, se dit-il, je commence à réfléchir comme mes compagnons. Cette conscience d'une division de la société en classes qu'il commençait à acquérir était comme la révélation d'une forme cachée dans un nuage. Une fois vue, il était impossible de cesser de la voir.
« Ella !»
C'était une naine en bleu de travail, les cheveux châtains presque rouges, qui les avait interpellés. Elle venait dans leur direction. Carmalière ralentit imperceptiblement sa marche, mais fut bien obligé de continuer pour ne pas attirer l'attention. Barn regarda la naine avec étonnement. Les nains étaient un peuple aux traditions particulièrement patriarcales, et il était bien rare de voir une femme naine travailler, ou même de voir une femme naine tout court. La plupart restaient à la maison pour s'occuper de leur famille et ne fréquentaient que des lieux publics nains. Au Moyen-Âge, une rumeur persistante racontait d'ailleurs que les nains étaient un peuple exclusivement masculin, ce qui était bien sûr parfaitement idiot.
« Vous allez où comme ça ?» demanda la naine.
« Département R&D, » dit Amélise sèchement.
« C'est pas l'arrivage de Frère Brut qu'on devait recevoir cet après-midi ? Il y a le logo de Metalia sur cette caisse. C'est bien eux qui nous fournissent, non ?»
Barn déglutit une difficulté. C'était ce genre d'imprévu qu'il avait redouté. Le moindre grain de sable dans les rouages de leur plan pouvait tout faire échouer, et cette ouvrière naine pouvait bien être ce grain de sable.
« Non, » dit Amélise, « ce doit être autre chose. On nous a dit d'amener ça là-haut. »
Elle fit un mouvement de tête vers le plafond. Elle n'avait en fait aucune idée de l'étage du département R&D. Mais il y avait peu de chances qu'il soit également au rez-de-chaussée.
« Je crois que c'est un nouveau type de métal magique sur lequel ils veulent expérimenter, » hasarda Barn.
L'ouvrière le regarda avec suspicion. Barn se rendit compte qu'il avait un accent et une façon de s'exprimer qui trahissait son statut d'employé de bureau. Amélise, elle, avait eu la présence d'esprit de modifier son élocution.
« On s'en tape, monsieur je sais tout, » lança-t-elle à Barne avec une mauvaise humeur qui ne devait être qu'à moitié simulée. « On nous dit de monter ça, on le monte. Font bien ce qu'ils veulent avec. »
Elle se tourna vers l'ouvrière. « Si ça ne te dérange pas, d'ailleurs, on y va. C'est que ça pèse son poids, ce truc. »
La naine acquiesça et repartit vers son poste de travail en répondant.
« Ouais, bah, si jamais vous voyez une caisse de fer brut, vous me la portez. On peut pas travailler correctement si on n'a pas le matos pour. »
Barne poussa un soupir de soulagement et il se remit en marche. Carmalière avait déjà disparu derrière la porte qui menait à la cage d'escalier principale du bâtiment.
« C'était moi une !» murmura Barne. « Réfléchis avant de causer !» gronda Amélise. « Dans le doute, boucle-la »
« J'essayais d'aider !»«
C'est gentil de ta part, mais tu ne te rends pas compte à quel point un accent ou une simple intonation peut trahir ton appartenance sociale. »
« ça va, je le ferai plus !»
Ils rejoignirent Carmalière qui les attendait au pied de l'escalier.
« Tout va bien ? » demanda-t-il.
« Oui, oui, » répondit Barne, « juste une employée un peu curieuse. »
« Bon, c'est ici que ça se corse. Nous n'avons aucune idée de l'endroit où peut se trouver l'épée, à quel étage et dans quelle pièce. À supposer même qu'elle soit bien dans ce bâtiment.
« Elle y est, j'en suis persuadé. La sécurité n'a pas été renforcée ici par hasard. Ils savent que nous risquons de tenter quelque chose. Soyons donc sur nos gardes. »
Ils montèrent au premier étage et ne croisèrent personne. Un long couloir s'étendait devant eux. Il était vide et toutes les portes auxquelles ils donnaient accès étaient closes.
« Des bureaux. Je doute qu'on trouve quoi que ce soit ici. »
« Pardon ?» C'était Pod qui avait tenté de s'exprimer, mais sa voix traversait à peine les parois de la caisse. Barne souleva très légèrement le couvercle et distingua les yeux du gnome qui le regardait dans la pénombre.
« Je disais, on peut trouver un ordinateur. Si on arrive à se connecter au réseau intranet de la fabrique, on pourra peut-être découvrir des informations. »«
Bonne idée, » dit Barne en refermant la boîte. « Tâchons de trouver un bureau vide. » Ils firent quelques mètres dans le couloir en essayant d'entendre des bruits au travers des portes. La situation était pour le moins stressante. Un employé pouvait sortir à tout moment d'un des bureaux et demander à ces trois personnes ce qu'elles faisaient là. Surtout aux deux ouvriers qui transportaient une caisse de marchandises à l'étage des bureaux.
« Ici !» dit soudainement Amélise avec un air d'intense concentration. « Il n'y a personne. »«
Comment tu peux le savoir ?»«
Je le sais, c'est tout. Je suis une fée. »
Barne trouvait que cet argument ressemblait un peu trop à « ta gueule, c'est magique ». Mais il n'en dit rien et tourna la poignée aussi doucement que possible. Il entrebâilla la porte et jeta un œil à l'intérieur. Le bureau était bel et bien inoccupé. Ils s'y engouffrèrent tous les trois et refermèrent derrière eux. Pod sauta hors de la caisse.
« Pouah, on étouffe là-dedans !»«
Maintenant, vite !» dit Carmalière en s'asseyant derrière l'écran plat qui trônait sur le bureau. « Voyons voir, il faut un mot de passe pour déverrouiller l'ordinateur. »
Yel lança un regard aux autres, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un ait une formule magique pour déverrouiller un ordinateur sans avoir le mot de passe. Barne se disait que c'était pourtant Yel, le magicien, la plus qualifiée pour disposer d'une telle formule.
« C'est con, hein ?» railla Barne. « Tous ces efforts réduits à néant par un simple mot de passe. »«
Mais non !» dit Pod avec agacement. « Laissez-moi faire !»
Carmalière céda sa place au gnome qui remonta le fauteuil de bureau, s'y installa et commença à taper des choses très vite sur le clavier.
« Ah !» dit Carmalière. « Nous avons un hacker parmi nous !»
S'introduire dans un système informatique par la force ou la ruse, fit remarquer Pod, ça révèle plus du boulot d'un cracker que d'un hacker. Mais peu importe, c'est déverrouillé.
Déjà, impressionnant. Tu dois avoir des compétences fabuleuses en informatique pour casser la sécurité de la fabrique.
Pas du tout. Je veux bien les honneurs, mais c'est plus leur incompétence que mes talents qui sont en cause. Le mot de passe était 1, 2, 3, 4, 5. J'ai essayé tous les mots de passe bidons. « Mot de passe, MDP, 000, etc. » Et voilà, ne jamais sous-estimer la partie la plus faillible d'un système informatique, l'utilisateur.
Le gnome avait néanmoins un sourire satisfait sur le visage. Ses trois compagnons se penchèrent autour de lui pour admirer l'espace de travail de l'ordinateur désormais accessible.
« Clique ici !» fit Barne en voyant une icône en forme de tableur.
« Stock Express, c'est un logiciel de gestion de marchandises. »
Pod avait gardé la main sur la souris et cliqua sur l'icône en question. Après quelques secondes de chargement, une fenêtre s'ouvrit.
Le logiciel n'avait pas l'air tout neuf. Son interface était assez laide et résolument désuète. L'inertie technologique dans les grandes entreprises se vérifiait chaque jour.
« Il y a des millions d'éléments, » remarqua Pod, « classés par référence. Qu'est-ce que je cherche ?»«
Épée d'émeute, » indiqua Carmelière. Pod tapa la requête dans le petit formulaire de recherche.
« Zéro résultat, »
murmura-t-il avec déception. « Essaye sans les accents, » suggéra Amélise en remarquant que la recherche avait été interprétée comme un mot dont tous les accents ont été remplacés par des caractères spéciaux. « C'est l'encodage qui est moisi. » « Miss typographie se réveille ?» fit Barnes d'un ton narquois. « L'encodage et la typographie sont deux choses distinctes, idiot. Mais ce n'est ni le lieu ni le moment pour que je te fasse un cours. » Amélise avait joué l'agacement, mais Barnes ne put s'empêcher de remarquer qu'elle avait un sourire en coin. Elle semblait prendre « Miss typographie » plus comme un compliment que comme une attaque. Il soupçonnait qu'elle aurait, en réalité, été ravie de lui faire un cours. Pod réitéra la requête en tapant cette fois « Un peu de meute. » Il n'y eut encore une fois aucun résultat.
« Essaye sans l'apostrophe, » hasarda Barnes. « Sérieusement ? » ?»«
Ça ne coûte rien d'essayer. » De toute façon, fit remarquer Amélise, c'est une apostrophe dactylographique et non typographique, donc c'était incorrect. Barnes lui lança un regard halluciné et elle pouffa.
« T'as conscience qu'on ne comprend rien à ce que tu racontes, Amélise ?»
demanda Pod sans lever les yeux de son écran.
« Bon, j'essaye. »
Et, à la surprise générale, lorsque Pod tapa « Eupe Eumeute », le moteur de recherche afficha cette fois un résultat. Oui, avec un S à la fin.
« Sans déconner !» murmura Barnes, ébahi.
« Encore un logiciel codé par des baltringues !» s'extasia Pod. « Bon, voyons un peu. La référence est indiquée comme disponible en un seul exemplaire. »
Ils n'ont pas réussi à la copier, bien sûr.
Elle a été entrée dans la base le 3 Kvinil 6592. La vache, j'étais même pas né. Elle est stockée sur le site Sorbourg-Malgron 204.
Quelqu'un a pris le temps de regarder le nom du site dans lequel on se trouve ? Demanda Barnes.
Malgron est le nom du quartier, expliqua Pod. On est au bon endroit.
204, lui Carmalia. Ce doit être la salle.
Deuxième étage ?
« Allons-y !» Pod se retrouva à nouveau dans sa caisse et la compagnie sortit avec prudence dans le couloir. Curieusement, ils ne croisèrent encore une fois personne. Lorsqu'ils franchirent le seuil du deuxième étage, ils remarquèrent que le couloir comportait beaucoup moins de portes. Les pièces devaient être plus larges, ce qui était logique si cet étage était dédié au stockage et aux expérimentations. Une odeur légèrement chimique flottait d'ailleurs dans l'air. Les numéros de portes affichés 201, 202, etc. Lorsqu'ils atteignirent la 204, Barnes prit une inspiration et tourna la poignée. Carmalia et Amélise se tenaient prêts à lancer leur sort de sommeil sur tout employé qui se trouvait dans la pièce. Une fois encore, il n'y avait personne.
« C'est étrange, » murmura Barnes. « On dirait que les locaux sont vides. »
Pénétra dans la pièce. Amélise et Barnes posèrent la caisse où Pod était toujours caché sur le sol en examinant les étagères qui s'alignaient le long des murs.
« Est-ce que vous arrivez à distinguer quelque chose qui ressemble à une épée dans tout ce fatras ?» demanda Amélise.
« Je suis désolé, » gronda une voix rauque derrière eux, « mais j'ai bien peur que nous ayons mis l'objet que vous recherchiez en sécurité. Les mains en l'air, tout de suite !»
Ils se retournèrent en sursaut et se retrouvèrent nez à nez avec trois pistolets, tenu par un orc entouré de deux gobelins.